on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
De l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la jeune fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, au programme, une chronique des apatrides anonymes. On y parlera d'immigration en Europe et notamment du traitement réservé aux Roms, appelés aussi les gens du voyage, donc qui, par définition, ne vivent pas selon le rythme des frontières. Et dans un monde plein de frontières, leur situation est assez difficile. Ce sera vers dans la deuxième partie de l'émission. Également, on aura la première édition d'une chronique littéraire qui devrait être avec nous tous les mois sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et on va commencer avec un documentaire sur les élections au Congo. Alors, restez avec nous pour cette émission. Et je vous rappelle également, comme vous avez dû l'entendre sur les ondes de Radio Centre-Ville dans les derniers jours, qu'on se prépare du 7 au 13 novembre. En fait, en ce moment même, c'est le Radioton de Radio Centre-Ville. Qu'est-ce qu'un radioton? Un radioton, c'est permettre de financer sa radio communautaire. Et oui, puisque ce que vous entendez là, c'est en bonne partie grâce à des dons de vous autres, les auditeurs et auditrices. Alors vous pouvez aller sur le www.radiocentreville.com pour avoir toutes les informations sur le radioton. Restez avec nous. quelques jours de campagne électorale ont suffi pour métamorphoser le paysage urbain de la République démocratique du Congo. Les portraits des innombrables candidats tapissent les carrosseries d'automobiles et les murs des commerces. Des bruyantes parades de supporters déambulent les rues. Des masses de chandails et casquettes à l'effigie des candidats sont distribuées. On se rassemble pour débattre et festoyer. L'heure est à la politique. Jean-Philippe Marquis est à Katanga, au sud-est du Congo-Kinshasa, et discute des élections avec la population de la ville de Lubumbashi.
Si tout va bien, les Congolais se rendront aux urnes le 28 novembre prochain pour décider du sort de leur pays. Les élections de 2006 mirent en place l'actuel président Joseph Kabila et furent pour le peuple de la République démocratique du Congo une découverte de la culture de la démocratie. Les électeurs de 2011 détiennent maintenant un point de repère et désirent consolider la démocratie du pays. Je sonde la population de Lubumbashi, ville principale de la région du Katanga. Je parle à des étudiants, des membres de la société civile, aux gens dans la rue. Je m'informe de leurs espérances et leurs craintes face aux prochaines élections.
Merci beaucoup. Moi, c'est M. Eddy Mutombe. Je suis le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale.
Au Congo-Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est l'organe mandaté de préparer l'enrôlement des électeurs, le processus de vote et de dépouillement. Elle est supportée par la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, qui apporte une aide logistique pour le transport du matériel en brousse, car c'est en région que réside la masse électorale congolaise. L'éloignement et le sous-développement des populations rurales posent un défi de taille aux organisateurs des élections. Patrick est géologue. Pour son travail, il doit se rendre là où la plupart des Congolais ne mettront jamais les pieds.
Il y a des moments où nous allons faire la prospection dans des villages, vraiment dans le Congo profond. La dernière prospection qu'on avait faite, on est entré dans un village du côté de Moba, où les villageois nous disaient que ça fait 30 ans qu'ils n'avaient jamais vu une voiture. Et tout le monde voulait monter dans la voiture. Vous imaginez un peu les niveaux du sous-développement. Et c'est vraiment très accentué.
Pour la région du Katanga seulement, un territoire de la taille de la France, la CENI doit installer 9600 bureaux de vote. La tâche doit s'effectuer en pleine saison des pluies sur un réseau de routes en lamentables conditions. La CENI affirme que les villageois auront à parcourir une distance maximale de 20 km pour se rendre au bureau de vote le plus près. Mais pour celui qui ne possède même pas un vélo, qui ne sait pas lire et qui n'a jamais voté, se rendre aux urnes peut sembler une idée absurde. Serge, étudiant en informatique à l'Université protestante de Lubumbashi, explique comment il est simple de manipuler les villageois congolais.
On a encore des sérieux problèmes, surtout au village. C'est peut-être ici on a un peu d'électricité, mais là-bas ils n'ont pas d'électricité. Donc c'est des gens qui connaissent rien, ils savent pas que c'est leur droit d'être dans des bonnes conditions. C'est ainsi que quand les gens partent battre campagne là-bas, tu peux lui donner même un sac de riz. Ah, il te vote comme il... Donc, il comprend pas quand on vote, c'est pourquoi. Lui, il pense que tu es gentil, puisque tu lui as donné un sac de riz. Notre pays n'arrive pas à amener l'information là-bas pour instruire les villageois. On les utilise, c'est ça. Un verre de sel, tu mets vote. C'est terrible, hein. Quand on plonge sa voix dans un verre de sel, c'est compliqué.
Quand leur voix n'est pas achetée, les villageois non sensibilisés ont tendance à voter par considération ethnico-tribale ou simplement sur ordre du chef du village. L'éducation au processus électoral est assurée en grande partie par la société civile. Joseph est membre de l'ONG Action pour le développement intégral au Katanga et participera aux élections en tant que formateur et observateur.
La société civile du Katanga joue un grand rôle parce que c'est elle qui est en train de jouer le rôle entre les gouvernants et les gouvernés. Nous disons aux gens, votez quand même utile. Voir prochainement comment est-ce que le pays peut aller de l'avant. Il ne faut pas seulement voter pour un t-shirt, pour voter pour avoir ne fût-ce qu'un kilo de poisson. Non. Voter utile pourvu que la nation congolaise puisse aller de l'avant et qu'on puisse avoir de bons dirigeants qui peuvent contribuer à un développement du pays.
Des observateurs et des policiers seront présents dans tous les bureaux de vote pour maintenir l'ordre et s'assurer qu'on ne tente pas de manipuler les personnes les plus vulnérables. La CENI s'affiche comme impartiale. Elle se dit disposée à rejoindre les 32 millions d'enrôlés le jour des élections. La dite neutralité de la CENI est remise en doute par les critiques qui la suspectent d'être liée à certains partis. On lui reproche aussi, tel que l'indique Emmanuel, étudiant en communication à l'UNILU, de ne pas avoir prévu de système pour les Congolais qui seront en déplacement le jour des élections.
En République démocratique du Congo, nous comptons 11 provinces. Imaginez qu'aujourd'hui, peut-être, il y avoir plus ou moins 2 millions de déplacés qui ont changé de province. Alors, ipso facto, ces 2 millions de Congolais qui ont juste changé de province seront privés de vote.
Radio Okapi est la radio des Nations Unies en RDC. En plus de tenir son journal en ligne, Radio Okapi opère 9 studios et collabore avec 27 radios partenaires pour couvrir une bonne partie du pays. Elle fait son effort de sensibilisation en diffusant 4 programmes spéciaux visant à vulgariser le processus électoral, répondre aux questions du public et offrir une chance aux candidats de présenter leur plateforme. Elle se veut neutre et tient une liste noire de pièces musicales à tendance politique dont la diffusion est interdite durant la période électorale.
Nous sommes appelés, aimables auditeurs, à travers les élections, d'aller sanctionner le comportement de nos dirigeants.
Les Congolais sont de grands consommateurs de médias. La radio et la télévision ont beaucoup d'influence au pays. La presse congolaise est payante et quiconque désire passer son message peut, moyennant un certain cachet, vendre son produit ou publiciser ses actions. On reproche aux principaux partis politiques de battre campagne avant la période électorale via leurs chaînes respectives. C'est ainsi, tel que l'explique Emmanuel, que les partis se livrent une véritable guerre par l'entremise des médias.
On se souviendra qu'en 2006, il y avait eu incendie de la chaîne Canal Congo Télévision, chaîne de M. Jean-Pierre Bemba, qui était à ce moment-là considéré comme le candidat de l'opposition qui s'était retrouvé comme challenger de M. Joseph Kabila à la présidence. Et cela, ça n'avait pas permis à nos amis de l'opposition d'exprimer volontairement ce qu'ils voulaient faire, ou soit présenter leur programme d'action au peuple congolais. Cette année, en 2011, avant même les élections, ce qui est plus grave est qu'il y a eu encore incendie de la chaîne RLTV, une chaîne pro de l'opposition. Alors, on a compris que nos amis au pouvoir ont tendance à déstabiliser l'opposition au travers le média, parce que la seule chaîne qui essaie un peu de merger pour exhiber à la face du monde les défaillances du gouvernement, cette chaîne est toujours poursuivie et pour finir c'est toujours de l'incendie.
Il y a près de 150 partis politiques au Congo. On compte 18 000 candidats en course à l'Assemblée nationale pour 500 sièges. Un poste en politique est perçu comme une façon facile de s'enrichir rapidement et de bénéficier de toutes sortes d'avantages.
Quand vous êtes député en République démocratique du Congo, ça veut dire que vous avez le droit sur tout. Vous pouvez vous réveiller un petit matin et dire que cette parcelle m'appartient en tant qu'honorable député parce que vous jouissez de cette immunité. Ce sont des choses que nous vivons en République démocratique du Congo. Il y a également certaines taxes parce qu'on est honorable député. On est bien sûr exclu à ne pas payer bien sûr ces genres de taxes. Or, c'est la taxe qui contribue bien sûr au progrès d'un pays.
Les deux partis qui ont le plus de soutien sont le Parti pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, et l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti de l'opposition officielle. Les partisans de l'opposition doutent de la volonté de Kabila à céder le pouvoir et espèrent que s'il y a changement de gouvernement, la transition se fasse dans la paix.
Le Congo, c'est un pays post-conflit. Depuis 1998, nous avons perdu plus de 4 millions de nos frères. En tant qu'activiste des droits de l'homme, ce que je peux recommander à nos acteurs politiques, c'est de prendre la responsabilité, d'accepter l'échec ou la réussite, en tout cas que tout se passe sans effusion de sang. Nous n'en avons plus besoin.
Bernadette Kapend est candidate à la députation nationale pour l'UDPS. Elle fait partie du maigre 12% des femmes qui ont soumis leur candidature. Selon Bernadette, la faible représentativité de la femme dans les instances de prise de décision est due à la pesanteur culturelle, à la pauvreté et au manque d'éducation. Il est traditionnellement anormal qu'une Congolaise occupe un poste de gestion et ses revenus sont habituellement gérés par son mari. Son éducation est perçue comme superficielle.
Les parents préfèrent amener facilement un garçon à l'école qu'une fille. Et préfère payer les études d'un garçon que d'une fille, puisque la fille, dans la plupart des familles, surtout au village, on considère la fille comme une étrangère dans sa famille. À un certain âge, elle est appelée à quitter sa famille pour s'attacher à son mari et à la famille de son mari et à disparaître. Pourquoi on va faire autant de dépenses d'investissement pour une personne qui va être appelée un jour à quitter la famille, qui ne va pas ramener la richesse à la famille, qui par contre va ramener la richesse, même si elle pouvait travailler là où elle sera. Vous voyez, ça mène à ce que le fils n'accède pas facilement à des études qui le permettent de se positionner dans des postes de responsabilité. Après, il y a l'ignorance. La femme s'informe difficilement. Elle ne connaît même pas qu'est-ce que les élections, quand est-ce qu'il y a élection et quel poste je peux briguer, etc. Elle n'a même pas parfois de poste de radio. Et le poste de radio appartient aux hommes pour être formé. Elle ne sait même pas lire les journaux pour connaître les nouvelles de son pays, ni les autres instruments juridiques qui parlent des élections, qui parlent du pouvoir. La femme ignore totalement tout ça.
On peut noter beaucoup de progrès si l'on compare à la campagne de 2006. Les villageois sont plus méfiants et les organisateurs mieux préparés. Le processus n'est pas parfait, mais n'oublions pas que les élections de 2011 ne seront qu'une seconde expérience et que ce qui a été accompli en 5 ans est impressionnant. Je laisse le mot de la fin à l'activiste Patrick, qui s'adresse à son futur gouvernement en espérant qu'il dirige le pays de façon propre et juste.
Nous avons comme l'impression, nos dirigeants, pour eux la politique, c'est l'art de mentir. Donc ils viennent avec des beaux discours, avec des slogans, tolérance zéro, l'ère de la récréation est finie, mais sur le terrain, on ne voit rien. Il y a l'argent du trésor public qui est expolié, pillé. Il y a nos richesses minières, nos richesses de flore et faune sont saccagées sous nos yeux. Et on étouffe. Quand vous voulez revendiquer, ce sont des enlèvements, ce sont des emprisonnements et sans suite. La corruption, l'impunité, vraiment ce sont des vices qui rongent. Et nous souhaitons au président qui sera élu qu'il puisse militer sur ça. Que la politique ne soit pas l'art de mentir, de la plaisanterie. Hein? Ça nous fait honte. Nous voyons quand même les nations. Nos nations africaines ici, hein, la Zambie, l'Angola, qui émergent, ça nous fait mal, ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. Et nous voyons notre avenir, comment sera notre avenir, hein? Donc nos politiciens doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent travailler. Quand vous êtes élu, c'est pour servir le peuple, ce n'est pas pour vous enrichir.
C'était un reportage de Jean-Philippe Marquis à Lubumbashi, au Congo-Kinshasa.
Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne pendant que le peuple souffre. Le pouvoir tourne. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Et il se souffre. I say c'est la même chose, gauche, droite, y a-t-il autre chose, gauche, droite, pour changer les choses, gauche, droite, c'est la même chose. Et ça recommence, toujours le même récital, c'est comme les chaises musicales, ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne, le pouvoir tourne, chacun à son tour. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, c'est la même chose.
quand ils sont au pouvoir, ils ne lèvent pas le petit doigt. Et lorsqu'ils ne sont plus aux affaires, ils veulent tout refaire.
Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose.
Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Les militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Les peuples souffrent. Le pouvoir tourne. Il perd son souffle.
Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, cassez d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a un autre dose. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, cassez d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a un autre dose.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, vous écoutiez Tikenja Fakoli, gauche-droite, toujours la même chose. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que c'est le Radioton de Radio Centre-Ville en ce moment. Qu'est-ce qu'un Radioton? C'est l'occasion merveilleuse que vous attendiez toute l'année pour pouvoir financer votre radio communautaire. Qu'est-ce qu'une radio communautaire? Une radio communautaire, c'est une radio qui est notamment un organisme sans but lucratif, c'est-à-dire que le but de faire des émissions de radio ici ou même de vous passer des publicités, ça va être de l'autofinancement avec la communauté et ça n'est pas un but lucratif, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas pour vous faire écouter des publicités qui vont vous faire acheter des choses, mais bien pour partager dans la communauté des événements culturels, des événements sociaux, des événements politiques, des points de vue différents. D'ailleurs, on peut s'impliquer dans sa radio communautaire, on peut devenir bénévole, on peut y avoir une émission. On peut faire ses propositions régulièrement tous les ans et on peut appuyer sa radio communautaire pour qu'elle puisse continuer d'exister en faisant un don. On peut faire un don n'importe quand dans l'année, mais c'est tout à fait l'occasion entre les 7 et les 13 novembre puisque c'est le Radioton de Radio Centre-Ville. Alors toutes les informations au www.radiocentreville.com. Et c'est d'ailleurs le moment de l'anti-hebdo, c'est-à-dire tous les événements qu'on ne vous annoncera pas dans des grands médias de masse et tous les événements pour des gens qui se sont débarrassés de leur télévision ou qui ont simplement décidé de pas se mettre aux hautes définitions. Tout comme moi, voilà. Alors, jeudi après-midi, je sais, vous en rêviez, une grande manifestation nationale contre la hausse des frais de scolarité. Devinez quoi, le 17 mars 2011, le gouvernement Charest déposait un budget provincial des plus controversés. Encore, je sais. En effet, celui-ci contenait une hausse massive des frais de scolarité, prix de 1 625 $ en 5 ans, au rythme sympathique de 325 $ de plus par année. L'ensemble du mouvement étudiant vous invite à une grande manifestation. Alors, ça va être au métro Berry-UQAM à 14h jeudi, donc pour revendiquer la non-hausse des frais de scolarité à défaut de mieux. Le soir, vous aurez trop d'événements, vous ne serez plus donné de la tête puisque on vous invite à un film, L'or ou la vie, une question de droits humains. C'est organisé par le projet Accompagnement Québec-Guatemala qui va faire donc cette projection et a invité plusieurs intervenants et intervenantes pour parler des enjeux des minières canadiennes sur les territoires de Colombie, du Guatemala, du Mexique et d'ailleurs. Alors ça va être au bar populaire de 18h30 à 21h30, 6584 boulevard Saint-Laurent. Toutes les informations www.paqg.org. Également le même soir, un lancement de livre Lutte XXX, inspiration du mouvement des travailleuses du sexe, réalisé par Marianne Engemensa, Claire Thibaudeau et Louise Toupin. C'est une anthologie qui est publiée chez les éditions Remue Ménage, un livre qui présente différentes formes de résistance qui ont inspiré les travailleuses du sexe au Québec afin de lancer un appel à la justice et demander une reconnaissance sociale. Alors c'est tout un programme de soirée, ça aura lieu au 57 88 Saint-Laurent, coin Bernard, métro Rosemont. Ça commence à 17h30 avec un cocktail, des présentations, ensuite lecture et performance aux alentours de 18h. Il va y avoir de nombreuses intervenantes de Jocelyne Lamoureux de l'Université du Québec à Montréal, Anne-Louise Cargot de Stella, des chercheuses indépendantes, plusieurs, beaucoup de gens. À partir de 21h, ça va être musique avec DJ. Alors je vous rappelle l'adresse 57 88 Saint-Laurent. Le même soir, cabaret des sorcières à partir de 19h, c'est au métro Baudry. Si vous êtes un petit peu plus au sud, il y en a pour tous les goûts selon où vous vous trouvez sur la ligne orange à Montréal. C'est une invitation du collectif Les Sorcières, qui est un collectif féministe qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, me semble-t-il, à Montréal, et qui donc invite à une soirée cabaret, donc avec des prestations musicales mettant en vedette un groupe local, Son Un Poco Politicas, Chrysalide et ses slams, Anaïs à guitare, ainsi que Mise en demeure. Alors voilà, c'est un rendez-vous à 19h. Vendredi 11 novembre, ça va être le lancement de la Mauvaise Herbe. Le Mauvaise Herbe est un des plus vieux zines, en fait, de Montréal, qui fête ses 10 ans. Alors les zines, c'est ces petites brochures, petites publications, qui sont pas vraiment un journal, qui sont pas un livre non plus, puis qui sont une façon assez populaire de répandre des idées à moindre coût. Alors depuis une dizaine d'années, la Mauvaise Herbe publie à Montréal. Alors c'est une soirée sous le thème 200 ans de sabotage industriel, 10 ans de propagande anarchiste. Venez fêter avec nous le 10e anniversaire et ça va avoir lieu à la Belle Époque, qui est un nouveau local sociopolitique qui se trouve dans Pointe-Saint-Charles. Alors c'est au 1984 rue Wellington au métro Charlevoix. Donc il y aura une soirée micro ouvert. Vous pouvez également chercher la Belle Époque au 1984 rue Wellington d'autres jours de la semaine et y trouver toutes sortes d'événements politiques qui s'y passent. C'est un lieu assez actif en ce moment à Montréal. Je profite pour vous dire également, si vous cherchez d'autres activités à Montréal que les quelques-unes qu'on vous nomme toutes les semaines ou que vous entendez, vous pouvez retrouver beaucoup d'autres événements sur différents sites alternatifs à Montréal, notamment le Centre des médias alternatifs du Québec, cmac.net, qui a un calendrier à jour, également l'agenda militant.info, qui tient toutes sortes d'activités sociopolitiques à jour toutes les semaines, et également vous pouvez aller voir le site de médias alternatifs montréal.mediacoop.ca qui fournit de nombreuses informations. Et s'il vous semble avoir entendu quelque chose de très intéressant en bas à gauche ce matin, mais vous n'avez pas tout à fait retenu, vous voudriez le réécouter ou le partager avec des amis, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur notre blog. Toutes les semaines, on met tout le contenu de l'émission en bas à gauche.wordpress.com. Vous y retrouvez l'émission complète, vous y retrouvez toutes les sections de l'émission découpées. Si vous avez vous-même une émission, vous pouvez récupérer le matériel en citant la source. Et c'est donc une façon aussi, vous pouvez nous laisser des commentaires, nous écrire. Une petite pause publicitaire.
Depuis 1975, Radio Centre-Ville rejoint un grand nombre de communautés de la région de Montréal. Nous diffusons, entre autres, de l'information sociale, locale et internationale sur des sujets et enjeux qui sont souvent peu traités dans d'autres médias. Radio Centre-Ville, c'est plus de 300 bénévoles. C'est une radio à but non lucratif qui a besoin de vous afin de pouvoir poursuivre sa mission. Du 7 au 13 novembre, c'est le Radioton de Radio Centre-Ville. Nous sollicitons votre aide financière. Tout don est appréciable. Pour faire votre don, téléphonez au 514-495-2597 ou faites-le en ligne sur www.radiocentreville.com. Merci de votre soutien.
Le 18 novembre, Reflections Night 2011, deuxième édition de cet événement tapis rouge et spectacle au Théâtre du cinéma impérial. Plusieurs artistes reconnus vous invitent à venir célébrer les différences. Luc Langevin, Danica, Natacha Sébastien, Mariem, The Passerines et autres invités surprises nous ouvrent les yeux sur la discrimination de l'image. Pour info, www.reflectionsnight.com.
Les rencontres berbères de Montréal. Un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centre-Ville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi.
Radio Centre-Ville 102,3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
En bas à gauche, chronique culturelle.
La première édition de la chronique littéraire avec Hubert qui sera avec nous aux 2-3 semaines, comme ça, au plaisir de se croiser. Alors, cette chronique, de quoi vas-tu nous parler?
Ben, c'est très simple. L'idée de faire une chronique littéraire est partie au dernier Salon du livre anarchiste. Bon, il y a beaucoup de choses qui se discutent durant ce salon-là et puis on trouvait que d'amener des questions littéraires dans une émission d'actualité politique, ça peut toujours être opportun, voire même très intéressant selon le contexte. Donc, une chronique littéraire, en même temps, qu'est-ce que ça fait? De quoi vais-je parler? Mais en gros, c'est que ça vise à explorer les liens, les rapports, les tensions plus ou moins fertiles entre politique et littérature. Dans une vision assez ambivalente, il faut le dire, la littérature peut être un instrument de domination, de contrôle, de divertissement aliénant, mais peut aussi être une source d'inspiration pour la révolte, peut insuffler un mouvement d'émancipation assez original et assez fort. Donc, c'est de voir comment littérature et politique se stimulent, s'influencent, bien entendu dans la perspective portée par en profondeur, donc dans une posture de critique sociale. On va pas se limiter à l'actualité, ça serait malheureusement trop réducteur, mais évidemment on va entrer en dialogue avec elle. Donc ça va se faire par le biais d'entrevues, de discussions, de critiques de livres, de présentations d'événements, etc. Donc pour cette première chronique de nature introductive, je vais d'abord présenter un collectif qui a été fondé récemment et qui, je dirais, mobilise le lien politique et littérature de manière assez originale à Montréal. Il s'agit du Bloc des auteurs anarchistes, les Anarchist Writers Bloc. Le Bloc des auteurs anarchistes a été fondé lors du Salon du livre anarchiste de 2009, c'est pas le dernier, par des gens qui écrivent et qui partageaient aussi des principes anarchistes. Donc, le Bloc a été créé suite à des constats communs qui ont été énoncés, des constats qui sont venus structurer aussi la mission même du collectif. Donc, premier élément de la mission, la lutte à travers la fiction et la création, ce qui est venu en effet d'un constat assez effarant. L'action directe est très présente dans la lutte politique, le discours est très présent, la théorie, mais on avait aussi envie de lutter justement à travers la création, parce que le désir de libération touche à l'ensemble des facultés humaines, dont l'émotivité, l'imaginaire, ainsi de suite, et parce que l'art est un excellent moyen de sensibilisation, de partage d'expériences, etc. Deuxième élément de mission, animer le milieu libertaire montréalais. Oui, le milieu libertaire montréalais est assez dynamique, je pense qu'on en parle entre autres dans cette émission, mais en même temps souvent est axé sur, comme je disais, soit les actions directes, soit les discussions, le théorique, qui sont des éléments qui sont essentiels, mais qui touchent peu justement à l'art, au littéraire, voire à la culture en général. Donc, on voulait un peu amener, vivifier le milieu, si on peut dire. Aussi, le troisième élément de la mission, c'était d'offrir des espaces et des moyens de diffusion pour les auteurs anarchistes. Ça partait d'un constat d'une certaine fermeture du milieu littéraire traditionnel, tant au niveau de l'édition, des revues, des concours, etc. On est parti d'une critique de l'organisation actuelle du milieu littéraire et d'une volonté de s'organiser autrement. Volonté que les moyens de diffusion ressemblent aux principes qu'on partage. Bon, autonomie, égalité, autogestion, avoir une marge de manœuvre finalement pour s'organiser. Alors, ces constats-là qui ont mené à des éléments de mission du Bloc des auteurs anarchistes ont débouché sur des projets. Bon, évidemment, sinon ça ça mènerait pas à grand-chose. Des projets spécifiques, brièvement, le premier au niveau des moyens de diffusion, ça a été l'édition en mai dernier d'un recueil de nouvelles anarchistes, un recueil bilingue qui s'appelle « Subversion ». On croit, du moins à notre connaissance, que c'est le premier recueil de nouvelles anarchistes au monde à être publié. Il rassemble des textes d'auteurs canadiens, mais aussi d'Europe et des États-Unis, des auteurs établis ou qui en sont à leurs premières armes. Le recueil a reçu de bonnes critiques en général. Il est disponible en librairie un peu partout à Montréal, mais notamment à la librairie anarchiste L'Insoumise sur Saint-Laurent. Et il est distribué aux États-Unis et en Europe par AK Press, la maison libertaire de Oakland. Fait intéressant. Devant le succès du premier tome, il y a un tome 2 qui est déjà en route. Donc, pour les personnes intéressées, si vous avez la plume baladeuse ou une envie d'écrire soudaine, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles en français, en anglais, en espagnol ou en italien, parce que oui, on a décidé d'aller plus loin et d'ouvrir les portes linguistiques du recueil. 2500 mots maximum envoyés avant le 1er décembre. Je vous dirai l'adresse en fin de chronique pour ne pas me répéter. Et le bloc commence aussi à éditer un zine qui va rassembler les textes et les poèmes lus lors des cabarets. Cabaret, oui, parce que ça fait partie des projets du Bloc. Le Bloc organise dans le volet animation, si on peut dire, des cabarets anarchistes qui ont lieu environ une fois par mois et demi. Depuis l'automne 2009. Donc, qu'est-ce que c'est les cabarets anarchistes? En gros, c'est très simple. On choisit un thème de base qui marque bien le lien littérature et politique. Il y a une présentation d'ordre littéraire sur ce thème. Et ensuite, micro ouvert. Micro ouvert qui a vu défiler toutes sortes de choses, des lectures, des performances, de la musique, du mime, des ateliers de création spontanée, des expériences collectives. Bref, un magnifique bordel. L'objectif, comme je le disais tantôt par rapport à un des volets de la mission, c'est d'animer le milieu libertaire montréalais, de mettre de la vie dans la lutte, mais aussi de doter le milieu d'un espace de création, de partage et aussi, faut le dire, de financement. Parce que c'est grâce au cabaret qu'on a pu financer le recueil Subversion dont je vous parlais plus tôt. Donc le dernier cabaret était le 28 octobre dernier, c'est un cabaret d'Halloween. Le prochain va avoir lieu le 2 décembre au Dira sur le thème G20 et après. Donc, dans le contexte de la fin des audiences de la plupart des arrêtés du G20, les profits du cabaret vont être versés au comité claque légale pour les arrêtés. Il y a d'ailleurs plusieurs membres du Bloc des auteurs anarchistes qui font partie de ces arrêtés-là. Donc, finalement, mentionner d'autres projets du Bloc. Les membres sont actifs dans plusieurs autres collectifs, vont participer à plusieurs événements, mais je dirais qu'en tant que collectif, le Bloc s'est impliqué entre autres dans les événements du milieu anarchiste qui traitent particulièrement de littérature, notamment le Salon du livre anarchiste et le Festival de théâtre anarchiste pour laquelle le Bloc a écrit collectivement une pièce. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent et le prochain est celui des ateliers. Et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est ce qui arrive le plus récemment, le plus prochainement, disons. Le prochain atelier, d'ailleurs, du Bloc, d'abord, qu'est-ce que les ateliers? C'est simple, ça vise à approfondir la réflexion sur les rapports entre littérature et anarchisme. Ça vise à créer des espaces de discussion sur ces thèmes-là, des espaces de diffusion, de partage de connaissances. Le premier atelier va avoir lieu sur un thème fondamental, un thème d'introduction, c'est qu'est-ce que la littérature anarchiste? Donc, pour essayer de comprendre et ou de répondre à la question, si on peut y répondre, ça va avoir lieu le samedi 12 novembre prochain à 14h au DIRA, Bibliothèque anarchiste sur Saint-Laurent. Et évidemment, c'est gratuit, ce sera bilingue, place à la discussion, consommation sur place et très brièvement au programme, un bref historique de la littérature anarchiste, donc depuis l'appel à la jeunesse de Kropotkin au 19e siècle, tous les liens qui ont été faits, la tradition fertile de la littérature anarchiste, soit portée par des auteurs qui ont eu des sympathies anarchistes, on peut penser à Orwell, Garcia Lorca ou Camus, ou par des militants, militantes qui ont écrit des textes littéraires, parfois très peu connus. On pense notamment à Louise Michel ou à Blanqui, qui ont eu des passages littéraires. Deuxième partie de l'atelier va traiter de Artaud et de l'anarchie. Donc, ça va être une réflexion sur la conception, on pourrait dire, littéraire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de l'anarchie, qui est portée, entre autres, par Artaud, mais qui a aussi été théorisée par Gauvreau, Blanchot et plusieurs autres. Donc, en quoi ça se distingue et où ça stimule l'anarchisme? En quoi ça peut inspirer la lutte politique? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par anarchie en termes esthétiques, à quelque part? Et la troisième partie de l'atelier va être un atelier sur la littérature anarcha-féministe, surtout autour de Ursula Le Guin et de Mary Percy. Donc, bon, d'explorer les rapports entre littérature, féminisme et anarchisme. Donc, vous êtes invités à venir en grand nombre. Donc, je me permets un petit rappel avant de terminer, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Donc, tout d'abord, si vous voulez joindre le collectif, vous pouvez trouver notre adresse sur le site ou awb.damonflower.com. Damon, c'est D-A-E-M-O-N, flower comme fleur.com. Vous remplacez le point par un A commercial si vous voulez nous écrire. Cabaret anarchiste sur le thème G20 et après, le 2 décembre au DIRA. Vous pouvez envoyer vos nouvelles en français, en anglais, en espagnol ou en italien avant le 1er décembre à l'adresse que je vous ai mentionnée, 2500 mots maximum. Et il y aura un atelier sur le thème « Qu'est-ce que la littérature anarchiste ?» le 12 novembre, donc c'est samedi à 14h au DIRA. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première chronique. La prochaine aura lieu le 21 novembre sur le thème « En marge du Salon du Livre ». On va inviter des maisons d'édition autonomes pour parler de l'organisation politique et économique du champ littéraire québécois, des rapports avec les institutions établies, dont le Salon du Livre de Montréal. Donc, c'est en plein cadre du Salon du Livre. Alors, je vous laisse sur ça étant de la musique. Donc, une pièce du groupe post-punk californien Blackbird Realm. Donc, un groupe qui a participé au mouvement des squats en Californie et qui a écrit une pièce qui s'intitule Germinal. Je suis sûr que vous voyez le lien pour conclure une chronique littéraire.
cette émission. C'est la fameuse et l'incroyable chronique des apatrides anonymes, où ce qu'on va parler de beaucoup de choses.
Oui, on va aller faire un petit tour en Hongrie.
Oui, ça a l'air super sympathique.
Là où il y a depuis 4-5 ans une certaine odeur de chemise brune. Si on pourrait s'exprimer ainsi, c'est même pas exagéré. Écoutez, juste pour faire un petit topo rapidement d'introduction, en Hongrie actuellement, il y a environ 16 groupes néo-nazis de répertoriés qui semblent être assez organisés, en fait qui sont très présents évidemment sur le web. Depuis 4-5 ans, il y a une radicalisation à la fois du discours et des passages à l'acte. Évidemment, les cibles favorites sont les Roms, les Juifs et les homosexuels, mais plus particulièrement les Roms depuis quelques années. On dénombre près d'une dizaine de meurtres de Roms et des affiches de personnalités mentionnant qu'elles seront pendues. Et ça se retrouve sur des lampadaires un peu partout. On assiste donc à un véritable repli nationaliste. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que la population ne se scandalise même plus. Ne semble en tout cas, selon les observateurs, ne pas se scandaliser du tout de ces passages à l'acte et du discours même pas fascisant mais vraiment néo-nazi qui connaît une recrudescence là notable depuis 4-5 ans en Hongrie. Bon, je vous parlais des Roms. Écoutez, il y a parmi les événements récents, en avril dernier, il y a le petit village de Djodjo Ispata, qui est une centaine de kilomètres qui est au centre du pays à peu près, un tout petit village de à peu près 2800 habitants, qui est un fief depuis longtemps des milices d'extrême droite hongroises. Mais depuis le printemps dernier, il y a les milices védérales qui sont installés. Ils ont installé un camp d'entraînement des lasers, bergers allemands, matraques et toute la haine contre les Roms qui viennent avec. Parce que dans ce petit village, il y a un ghetto de Roms, un des 100 à peu près ghettos qu'on dénombre en Hongrie. Il s'agit d'une communauté d'environ 450 Roms, 120 familles à peu près, bon, sur 3 générations dans une vingtaine d'habitations. Et donc Jobbik, qui est le mouvement d'extrême droite néofasciste, un mouvement d'extrême droite néofasciste, a pris la tête de la mairie au printemps dernier. Et il y a une loi qui a été adoptée par le gouvernement nationaliste de Viktor Orban, qui est un programme, en fait, de travail obligatoire pour les Roms. Évidemment, c'est un programme qui s'adresse aux personnes qui bénéficient des allocations sociales. Mais bon, il y a 50% de chômage dans la population Rom en Hongrie. Puis ça, on compte le chômage, évidemment, ça compte pas les personnes qui n'ont pas de revenus du tout ou qui sont sur l'assistance sociale. Donc, officiellement, c'est un programme pour toutes les personnes qui sont sur l'assistance sociale, mais c'est clair que ce sont les Roms qui en sont les premières victimes, puis qui sont les premières cibles de ce programme-là. C'est un programme en fait qui met, si on veut, les Roms dans des camps de travail pour environ 150 euros par mois, ce qui équivaut à peu près à 200 $. 150 euros par mois. Ils doivent travailler 8 à 10 heures par jour. À noter que le salaire minimum se situe à 350 euros. Le type de travail qui est demandé, c'est du débroussaillage, plantage d'arbres ou encore faire ce palpitant travail que de rénover le poste de police local. Et donc 150 euros par mois, 200 à 8 heures par jour. Et si les Roms refusent de travailler, ils risquent de se faire couper complètement les allocations sociales, et ce durant 3 ans. Donc, c'est vraiment un, les Roms sont vraiment dans un, bon, ça se rajoute évidemment à ce que les populations Roms vivent déjà depuis longtemps. Par exemple, dans ce village de Jojo Ispata, au mois d'avril, il y a eu un défilé de 7500 hooligans hongrois et milices hongroises avec des torches en marchant au pas militaire et en scandant des slogans néofascistes qui sont rentrés dans le ghetto Rom pour provoquer la population évidemment et faire peur à la population. Le commissaire du village a été comme tellement affolé qu'il a donné l'ordre à tous les Roms de rester chez eux et de ne pas sortir sous peine d'être battus ou tués. La population évidemment est traumatisée, les enfants dorment plus, la plupart des femmes sont sur les antidépresseurs. Plusieurs Roms ont fui le village, mais bon, d'autres décident de rester, de se battre et, entre autres, ont fondé le mouvement national Rom des droits civils pour organiser les différentes populations Roms à travers un peu partout en Hongrie. Donc ça, c'est un des défilés qui a eu lieu, mais il y en a eu plusieurs depuis les derniers trois mois, un peu partout, des types de défilés néo-nazis comme ça dans les villages Roms. Et le gouvernement nationaliste de Viktor Orban ben, a pris des semaines avant de finir par dénoncer ces défilés néo-nazis-là, puis il le fait vraiment du bout des lèvres. Évidemment, la peur de tout ça, c'est que ça s'étend. Bon, le village de Jojo Ispata, c'était la première ville à mettre en œuvre le programme de travail forcé. Mais bon, la crainte, c'est que ça s'étende aux 700 000 Roms de Hongrie et qu'évidemment, ça fâche tache d'huile là en Europe. Donc, voilà, c'était pas... Puis en même temps, on peut faire... Si on regarde, comme je dis, ça s'ajoute à ce que les populations Roms subissent déjà en termes de discrimination. Par exemple, dans le village de Jojo Ispata, la population, évidemment, est victime de harcèlement de la part des policiers. Il y a des caméras de surveillance partout dans le ghetto Rom. Ils reçoivent des amendes quotidiennement pour des niaiseries, un peu comme ici, avec les personnes en situation d'itinérance. Si tu roules pas sur le trottoir avec ton pouce-pouce parce que la chaussée est trop trouée pour être capable de rouler dessus, ben les femmes prennent des amendes. Donc, c'est un type de harcèlement qu'il y a. Il y a également des classes spéciales où sont mis les enfants Roms parce qu'il y a des psys qui leur font passer des tests qui concluent que leurs enfants sont tous des arriérés mentaux. Donc, on les parque dans des classes spéciales. Donc, c'est, je sais pas, mais ça fait penser un peu aux réserves ici où, tu sais, quand il y a eu les écoles pour les populations autochtones ici. Ça fait que, à surveiller, évidemment, j'ai pas de bonne nouvelle par rapport à ça. Parce que, comme je disais, la population, c'est vraiment ce qui est le plus épeurant là-dedans, c'est que la population ne fait absolument rien, tu sais. Je veux dire, il y a personne qui décrit ça. Les gens se scandalisent plus. Voilà, je vais essayer de vous avoir des meilleures nouvelles la prochaine fois. Peut-être en vous parlant des mouvements Roms organisés pour la défense de leurs droits, mais...
OK, c'est un mandat, alors c'est une commande officielle.
Voilà. Fait que peut-être qu'on pourrait se laisser sur une pièce avant votre mot de la fin.
D'accord.
Ben, ça sera notre moment un peu plus joyeux de cette chronique. Donc, j'avais pensé à mettre une vieille toune de Grimmskunk tirée de l'album Field Trip et la pièce s'intitule « Lâchez vos drapeaux ».
sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous écoutiez Grimskunk lâcher vos drapeaux. Et c'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche. Je profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter le contenu complet de nos émissions ainsi que des informations complémentaires, des liens, des rappels, des événements à venir sur notre blog en bas à gauche.wordpress.com. Il me reste une petite minute, je vais en profiter pour vous rappeler encore une fois que c'est le Radiothon de Radio Centre-Ville cette semaine, donc du 7 au 13 novembre. On vous invite à faire des dons pour soutenir votre radio communautaire. Radio Centre-Ville existe depuis le 27 janvier 1975. C'est une radio communautaire multilingue de Montréal, donc qui diffuse en plus de, en fait, en 7 langues. Donc vous pouvez aller voir notre programmation complète et écouter Radio Centre-Ville dans toutes ses langues. Alors depuis plus de 35 ans, Radio Centre-Ville favorise la libre circulation des idées en donnant le micro aux sans-voix, en enrichissant la communauté montréalaise et en faisant connaître musique, culture et idéaux des gens d'ici et d'ailleurs. Une radio communautaire vit grâce à vos dons. Alors vous pouvez faire un don par internet www.radiocentreville.com ou par téléphone 514-495-2795, excusez-moi. Alors, je vous laisse avec le reste de la programmation de Radio Centre-Ville et le bel âge pour...
On dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Oh, ah ben là, tu fais une surprise!
Et quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, oui. Une heure de cinéma, derrière l'image, avec François Morando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM ou www.radiocentreville.com. Captez tous les samedis, à l'heure de l'équipe haïtienne, l'émission Espace communautaire pour vous mettre à jour sur les divers événements et activités de la communauté. À partir de 17h30 avec Gladys Demosthène et Jean Rodnil.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836, 495-8836 ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centre-Ville.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être?
Radio Centre-Ville vous sert un savoureux cocktail musical.
Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Radio Centre-Ville, mettons l'accent sur le monde de Montréal.